Alors voilà, rebonjour, rebonsoir. C'est mon plaisir et aussi mon honneur de modérer Philippe Druillet, puisque c'est comme ça qu'on dit les choses. Ce qui est une vaste plaisanterie quand on le connaît. Oublions la modération et oublions aussi, disons, la présentation classique. En quelques lignes assez hâtives, parce que Philippe Druillet, tout le monde connaît son esthétique. Il suffit d'avoir vu l'affiche du festival pour reconnaître un paysage graphique et mental qui est présent dans l'imaginaire français depuis quoi, maintenant 40 ans facilement.
Je crains que oui.
Ah, c'est ça, voilà.
Ça marche là ? Il marche plus.
Si, oui. Ça marche.
Je crains que oui, oui.
Et donc, c'est moi, puisqu'on est dans un festival dont l'origine et l'intérêt premier, c'est la science-fiction, et qu'on parle souvent de ce qui est à côté, moi, j'avais envie, pour profiter pleinement de la présence de Philippe, de voir avec lui, de revenir avec lui sur les grandes étapes de sa vie telles qu'on peut les repérer dans une biographie même élémentaire, en essayant de les retracer sous l'angle du rapport à la science-fiction qui a finalement été quand même, et c'est assez rare, une constante dans l'histoire dans ton histoire culturelle. Voilà. Alors, la première étape, c'est évidemment l'enfance. D'après ce que je crois savoir, finalement, tu t'es réinstallé à Paris après un détour par la province au début des années 50, quand tu étais enfant.
Non, je suis héritier, c'est en train de venir sur la presse actuelle, d'une famille qui, sur le plan politique, était légèrement pétainiste. Et mon père a fait Simmeringen avec Céline. Et je suis né en 44 à Toulouse, j'ai passé 6 mois à Simmeringen, et après, mon père s'est réfugié en Espagne. Et je me suis retrouvé, mon père est mort quand j'avais 7 ans à Figueras, et j'étais très ému parce que j'ai eu mes premières émotions graphiques à l'époque, et Figueras, comme Cadaqués, c'était la ville de Salvador Dalí. Et Salvador Dalí, à une époque, était un mec qu'on peut considérer comme un peu escroc, mais aussi un immense peintre. Et j'ai baigné dans cette ambiance qui m'a porté quelque part. Et j'étais tout môme en Espagne, et je dessinais dans des cahiers d'écoliers. Et on me disait, peut-être tu seras plus tard comme Salvador Dalí.
Mais on reviendra là-dessus, mais tu as souvent cité et parlé des surréalistes. Donc
je n'aime pas les surréalistes, mais Dalí est à part. Ceci étant, on va parler tous ensemble, mais surtout si vous avez des questions à poser, parce que le côté conférencier, c'est un peu casse-couille, il faut bien l'avouer. Et surtout, ce qui est bien, c'est que si vous avez...
Modère-toi.
Non, mais si vous avez des choses à dire, qu'on communie un petit peu, parce que le côté, les deux crétins, pendant une plombe, qui racontent leur vie, ça peut être franchement chiant. Vas-y.
Moi, je ne raconte pas ma vie, je raconte la tienne.
Oui, bah, justement, c'est encore pire.
On raconte la tienne.
Donc, voilà. Non, ce qui est intéressant, donc allons-y, c'est comme en psychanalyse. Je suis môme, j'ai 5 ou 6 ans et mes parents m'amènent au cinéma à l'époque, et j'ai deux chocs cinématographiques. Un, c'était Le tombeau hindou de Fritz Lang, mais la version noir et blanc, et deux, je vois le film avec le film sur, comment dire, attends, ça commence bien, les trous de mémoire, c'est formidable, Shakespeare, être ou ne pas être,
je sais pas. Disons Fritz Lang, c'est déjà bien comme
référence. Non, mais donc notre ami, on a l'air Hamlet. Pas con sur Hamlet, merci, avec Laurence Olivier comme acteur principal, et c'est un film en noir et blanc, et qui me perturbe, j'ai 6-7 ans, d'une manière absolument étonnante, et j'ai retrouvé cette émotion ensuite, quand j'avais 15 ou 16 ans, à la Cinémathèque française, où j'ai été nourri par l'expressionnisme allemand, les films muets, Pabst, Murnau, Fritz Lang, et tout ça, qui m'ont amené à Vuse, la première bande dessinée sans texte, d'ailleurs, pour le premier épisode. Et j'ai trouvé dans ses racines cinématographiques, et Marc Carreau, à qui on parlait à midi, l'a bien expliqué, ça c'est le whisky pour l'orateur, et il y a aussi le whisky pour l'intervieweur. Chacun son truc, et donc j'ai été nourri très très tôt de choses fortes, puissantes, qui m'ont quelque part fait échapper à un destin auquel ma famille me destinait, qui aurait été absolument désastreux.
Qui était quoi?
Qui était des fascistes, point barre. Donc voilà, c'est tout. Et donc je me suis sorti de cela. C'est une cure de psychanalyse ce soir, je suis très heureux que vous soyez là. Et donc voilà, bon, maintenant je t'écoute.
Ben non, mais la question, c'est le rapport entre ces premières émotions, qui sont des émotions graphiques essentiellement.
Ce qui est très étonnant, c'est quand on est un enfant, on est réceptif. C'est marrant parce que j'ai un fils de 30 ans qui n'a plus, comme les générations actuelles, tellement nourri d'images. Je me rappelle à 15 ou 16 ans, avec l'Hammer Film, Terence Fisher, avoir vu le Dracula avec notre ami Christopher Lee et le Frankenstein. Et j'étais absolument terrifié par les images. Et maintenant, je cherche des films où je pourrais avoir profondément peur. Et j'ai perdu cette émotion. Parce qu'on est tellement gavé d'informations et tellement gavé, et les nouvelles générations le sont, c'est que maintenant, l'émotion profonde du spectacle, que ce soit le cirque ou que ce soit le cinéma, ce sont des images humaines, c'est une création. Et on doit avoir des émotions extrêmement fortes là-dessus. Et nous sommes tellement gavés d'informations qu'on a de plus en plus de mal. Alors on trouve ça à travers certains romans et certaines bandes dessinées, bien entendu. Mais je ne retrouve plus cette force d'émotion qui m'a entièrement construit.
Et c'est-à-dire que le gavage que tu évoques, il conduit à une chose qui est évidente, c'est la surenchère. C'est-à-dire que comme tout le monde est gavé, il faut surenchérir en permanence.
Oui, il y a
pour
aussi,
espérer émouvoir un peu.
Il y a aussi dans le monde de l'enfance, et j'ai un parallèle avec George Lucas qui a fait Star Wars, que je connais très bien et à qui je correspond régulièrement, à qui j'envoie mes livres. Et dans un interview, il avait dit cette chose magnifique. Il s'ennuyait profondément l'été, dans sa campagne de je ne sais plus où, quelle province américaine. Et moi, c'était dans le Gers. Et je me faisais chier étant môme dans des campagnes où les journées étaient sans ordinateur, sans portable. Et il y avait des machines agricoles avec des griffes et diverses poignées qui, pour moi, étaient des engins spatiaux. Et je retrouve dans un interview de Lucas, de George, et qui dit la même chose, il pilotait, on avait des culottes courtes, le cul ranci sur la rouille du siège, et j'étais à la conquête des univers spatiaux. Et on construit comme ça par l'ennui est une chose merveilleuse pour l'enfance, parce que l'ennui est un territoire d'expression, de liberté et d'imaginaire. Les mômes d'aujourd'hui sont aussi merveilleux que les autres, faut pas déconner non plus. Ils n'ont plus de temps pour s'emmerder. Et s'emmerder quelque part, ça peut être un truc chiant, pardonnez-moi la vulgarité du propos, mais ça fait marcher le cerveau, ça fait fonctionner. Et cette notion d'ennui aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, et vous avez tous des gamins sûrement dans la salle, eh bien les mômes, ils ont le même temps réel, quotidien, que les adultes. Alors qu'à mon époque, j'avais un temps d'enfance qui a été une journée était un millénaire. Pour les gamins d'aujourd'hui, une journée quelques secondes, comme nous. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Nous sommes dans une mutation de civilisation actuellement, quoi. Putain, c'est vachement profond ce qu'on dit.
Mais vas-y, bois un peu de whisky. Et je pose ma question suivante.
Si je vous emmerde, vous pouvez vous barrer, hein, c'est pas un problème.
Premières émotions graphiques. Mais dans les interviews où tu racontes ta formation, tu dis aussi que tu as quand même des émotions textuelles, c'est-à-dire que tu fais une rencontre avec la littérature de science-fiction dans les années 50, c'est-à-dire en étant encore
donc
enfant.
Donc j'ai des chocs absolument insensés parce que je crois à une chose profonde, que dans l'espèce humaine, enfin dans la vie humaine, il n'y a pas de hasard. On est amené d'une manière à avoir un maître à un moment donné. Et j'ai eu un maître qui s'appelait Jean Boulet à une époque. Quelqu'un qui vous conduit et qui vous initie quelque part dans un chemin. Et si je rencontre Stéphane Vull à une époque au Fleuve Noir, avec 7 romans absolument fabuleux, à l'âge de 14-15 ans, ce n'est pas un accident. Quand je tombe sur Démons et Merveilles de Lovecraft à l'âge de 15 ans, ce n'est pas un accident. La rencontre avec Lovecraft, pour moi, a été formatrice totale de mon travail. Ceci étant, je n'aime pas le personnage, qui est un personnage antisémite, complètement fou, complètement dingo. Mais bon, mais ce qui m'a amené sur le plan graphique est étonnant. Ensuite, il y a la rencontre avec Edgar Poe, et ensuite, il y a la découverte de la science-fiction, les Bradbury, tout ça, les Van Vogt et tout. Et donc, il y a une forme de recherche, avec à chaque fois où on te pose, on te met sur la table comme un jeu d'échecs, un pion extrêmement important. Et il y a aussi le fait que, étant fils de pauvre, donc fils de concierge, désolé de faire pleurer Margot, mes humanités, je les ai fait seules. Donc je suis un artiste métissé. J'ai grandi grâce à l'art égyptien, à l'art africain, à l'art toltèque, guatémaltèque et maya. Et j'ai construit, j'allais entre le musée de l'homme, le musée du Louvre et les puces. Où, aux puces, j'avais le droit d'ouvrir une commode pour faire du mobilier, ce que j'ai fait plus tard. C'est apprendre l'art et une absolue quête de connaissances, étant dans une famille dont j'ai parlé tout à l'heure, où il n'y avait pas de livres, il n'y avait rien. Et la littérature, pour moi, j'ai avalé la culture, j'ai fait mes humanités à travers tout ce qui était possible dans le monde moderne, qui englobait effectivement la bande dessinée, le cinéma, le théâtre, l'opéra, la musique, les musées et tout ça.
Le design.
Et le design. Donc c'est une recherche. Aujourd'hui, nous sommes gavés d'informations, c'est important, mais nous ne connaissons pas notre bonheur. Parce qu'avant 68, désolé, même si certains ne sont pas d'accord, c'était une révolution ratée, mais elle a amené une cassure sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que moi, avant 68, je travaillais à Fiction et Galaxy, j'avais déjà dans ma tête tous les albums et je ne pouvais pas passer. 68 est arrivé et il y a eu une cassure culturelle où tout d'un coup on s'est libéré d'un passé prestigieux, parce que De Gaulle était un homme remarquable entre 39 et 45, mais après c'était un vieux monsieur et la France était un pays de crétins. Et là on n'avait accès à rien. Et tout d'un coup, après 68, qu'est-ce qui nous arrive? Toutes les informations américaines au niveau presse, dessin, illustrateur, peinture et autres, et il y a une forme de révolution que nous avons faite à travers la bande dessinée et à travers la musique. Je suis de la génération des Stones, des Beatles, des Pink Floyd, de Frank Zappa. C'est une histoire. Et cette histoire, la bande dessinée à l'époque, très importante, se véhiculait, je n'oublierai jamais, Futuropolis, la librairie à l'époque. Florence Sestac et son homme envoyaient 700 ou 800 bouquins à moi par mois aux États-Unis. Et il y avait un réseau, de bandes dessinées et ça fonctionnait en même temps que la musique. C'est-à-dire que le rock, le mouvement rock, le mouvement pop et compagnie étaient de marge avec la France et aussi tout ce qui était à l'époque les comics underground. Un tas de dessinateurs faisaient la même chose que moi à l'époque. J'avais un dessinateur, Greg Irons, qui travaillait sur Escher, et moi j'étais sur Delirious, et je recevais dans la semaine les documents. À l'époque, il n'y avait pas de fax, il y avait le téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, et je recevais dans la semaine la même chose que lui faisait à l'autre bout de la planète. Donc il y a une génération de fous qui a construit quelque chose aujourd'hui. Donc voilà. C'est-à-dire que je suis déjà un dinosaure, c'est formidable.
C'est un titre de gloire. Je reviens sur un nom et un mot que tu as prononcé, parce que je trouve que c'est une période à la fois, c'est une charnière très intéressante et très mal connue dans l'histoire culturelle du pays. C'est Jean Boulet, et c'est l'idée d'underground. Finalement, je m'étais un petit peu renseigné sur Jean Boulet, mais finalement, il y a assez peu de choses sur ce gars-là. Je sais qu'il était libraire. Je sais qu'en tant que libraire, il a eu une activité éditoriale où il avait publié Boris Vian. Or, Boris Vian est un de ceux qui ont contribué à introduire la science-fiction moderne en France.
Il était aussi l'inventeur de Minuit Fantastique, le journal.
Et qui a joué un rôle aussi dans la diffusion.
Avec aussi Francis Lacassin, Michel Caen et beaucoup à l'époque.
Donc on a l'impression que... on va revenir sur Métal après, parce que Métal, c'est quand même l'heure de gloire.
On ne fait pas trop chier, là, non ça va. Bon, toujours inquiet, moi.
C'est une conversation sur des objets historiques, donc c'est très important. Mais avant d'arriver justement à Metal et au moment où, après 68, l'underground ou la contre-culture deviennent des courants dominants, c'est-à-dire où ils s'affirment comme des forces créatrices ouvertes, avant ça, il y a l'underground, c'est-à-dire au sens propre, un réseau de gens qui sont dans l'ombre, pas connus. Jean Boulet, c'était qui ?
Jean Boulet était un peintre, un illustrateur, un cinéaste. On a fait un Dracula ensemble en ombre chinoise, qui est dans un de mes livres. Et on était vraiment ce qu'on appelle l'underground. C'est-à-dire qu'à cette époque...
C'est le début des années 60.
C'est les années 60, 63, 64 et compagnie. La France n'avait pas le droit de diffuser certains films américains fantastiques. Donc il y avait des trains qui partaient à Bruxelles pour voir des films. Je me rappelle très bien avec Jean-Pierre Dionnet à l'époque, nous allions à Fontenay-aux-Roses parce qu'il y avait un ciné-club à Fontenay-aux-Roses qui passait le Planète Interdite. Et on se retrouvait à minuit et demi sans taxi, on revenait à pied, en cagoule, comme des communards, comme des anarchistes. Parler de science-fiction et de bande dessinée à l'époque, nous étions considérés simplement comme des débiles profonds. C'était une contre-culture, c'était un milieu de gens complètement fous, totalement allumés, qui croyaient à cela d'une manière absolument merveilleuse. Et la presse actuelle française qui est... N'oublions pas que nous sommes au pays de Proust. Donc Proust, c'est J'ai essayé de lire Proust, ça m'emmerde profondément. La littérature bourgeoise me fait chier. Mais la science-fiction à l'époque, c'était impossible. Simplement, la presse avait un problème, c'est qu'elle ne pouvait pas attaquer des gens comme Bradbury, par exemple. Donc, en France, on a le choix merveilleux de choisir quelqu'un pour le sortir du milieu et on effaçait les autres. Après, quand il y a eu des gens comme Kubrick, qui tout d'un coup, avec Arthur C. Clarke, s'est attaqué à 2001, l'Odyssée de l'espace, les critiques de cinéma français ont commencé à être ébranlées, sans jeu de mots vulgaire, bien entendu. N'empêche, je le fais, c'est pas grave, c'est fin de journée. Et là, la culture a changé. Et tout d'un coup, on s'est mis, enfin, certains, et la culture s'est commencé à s'intéresser à ce que nous aimons aujourd'hui. Il semble étrange, quand on parle à des gens jeunes, qu'il est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans, 45 ans, s'intéresser au cinéma de science-fiction, à la littérature et à la bande dessinée, on était considérés comme des débiles mentaux. Et maintenant, on s'est aperçu que les Ballard, les Thomas Dish, les John Brunner et beaucoup d'autres étaient des génies qui ont inventé, les Bradbury, ont inventé le monde d'aujourd'hui. Lisez ces livres qui ont parfois 40 ou 50 ans. Ils ont tout expliqué. Les problèmes de pollution, les problèmes de terrorisme, les problèmes d'achat de pays les uns entre les autres. Et il faudrait que les hommes politiques, qui malheureusement n'ont souvent aucune culture, comprennent que la science-fiction, ce roman, cette littérature, pardon, a englobé le passé, présent, futur, et c'est l'histoire des sociétés. Et dans ces livres, qui commencent dans les années 40, anglo et américain, jusqu'aux années 70, ont expliqué heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, ce qui arrive aujourd'hui dans la publicité, dans les médias, dans le terrorisme et dans la religion. Et je vous conseille un texte que j'ai eu ce matin, j'avais un trou de mémoire, qui est un cantique de Leibowitz,
Walter Miller,
qui explique, comment dire, le terrorisme et le crétinisme actuel de l'intégrisme religieux. Et la science-fiction est une littérature exceptionnelle, parce qu'elle a englobé ces trois phases, passé, présent, futur. C'est étonnant. Et cette mémoire, ils ont tout décrit. Je me rappelle, j'en ai parlé hier avec la journaliste de Libération, Bradbury raconte une histoire folle où, dans un monde futur, les enfants ont des murs d'images. Et c'est comme des écrans que nous avons aujourd'hui. Et l'enfant adore l'Afrique. Et un jour, on entend dans la famille un hurlement de lion, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La famille rentre dans la chambre, il y a des traces de sang, et le lion est parti avec l'enfant. C'est Bradbury. C'est absolument prodigieux, et je l'ai redit hier soir aussi, la plus belle nouvelle pour moi de science-fiction, désolé si la personne est là, je me répète, c'est Frédéric Braun. C'est la plus belle histoire de science-fiction en littérature qu'il tient en trois lignes. Le dernier homme vivant était enterré, enfermé dans sa cambuse, dans sa petite maison, et on frappa à la porte. C'est quand même formidable. C'est quand même Frédéric Braun. Donc nous avons dans cette littérature de science-fiction l'histoire de la modernité, de la société que nous vivons et celle à devenir. C'est absolument prodigieux. Et les dessinateurs, eux, ont été à la remorque, parce que les plus grands inventeurs dans le domaine, ce sont les écrivains. Ensuite, il y a une période de cinéma qui a été plus ou moins forte, les années 50, et depuis 15 ans, avec la 3D, l'image de synthèse, elle revient. Mais nous, les dessinateurs de science-fiction, nous avons surtout été élevés par les écrivains qui nous ont ouvert les portes. Et ensuite, nous avons mis en image nos fantasmes de littérature dans ce domaine. Amen.
Alors, c'est formidable, j'ai pratiquement rien à faire.
Je me présente aux élections et... Laissez tomber. Ah, merveilleuse phrase, tant pis, je l'ai dit. Vous avez peut-être vu ce film Bananas de Woody Allen, quand il est, comment dire, en Amérique du Sud, il est président, et ça c'est mon programme, en Amérique du Sud, il dit désormais la langue générale sera le suédois, et tous les slips seront portés par-dessus les pantalons. Voilà le programme que je vous propose dans 2 ans.
2 ans, c'est long.
Il y a 2 ans à tenir.
Bon, tu disais... Je continue parce qu'au fond, on vise à... C'est intéressant et on peut déjà dévoiler une sorte de... pas de conclusion, mais se rappeler que quand on est dans ce festival et qu'à l'entrée, il y a une énorme affiche de Philippe Druyet et qu'il y a ici des gens qui viennent, des auteurs du monde entier, des visiteurs qui viennent de partout, On est 40 ans après une situation où il y a, comme tu le rappelais, où il n'y avait rien. C'est-à-dire où ni cette littérature, ni cet art graphique, ni cet intérêt pour le futur, ni cette manière d'ailleurs assez relativiste de voir les choses n'existait ou n'avait droit de cité. C'était underground, c'était confidentiel. Aujourd'hui, c'est devenu une expression culturelle puissante et bien établie. Donc il y a un chemin qui est assez fascinant. Et dans ce chemin, il y a eu une étape absolument cruciale, d'autant plus cruciale qu'elle a, un, transformé l'art graphique de la science-fiction dans le monde entier, et deux, qu'elle était originaire de chez nous. C'est la seule fois où ça s'est produit dans l'histoire du genre. C'est Métal. Bon. C'est Métal. Donc, la fondation de Métal Hurlant,
74.
Alors, avant ça, il y a une trajectoire qui est en pointillé, qui est très étrange, en fait, et qui demande à être reconstituée. On sort de Jean Boulet, mais il y a le fameux épisode de la maison d'édition Opta, où vous vous êtes peu à peu retrouvé avec Meubius, avec quelques autres dessinateurs.
J'ai fait rentrer à l'époque.
Alors, comment s'est passée cette jonction Opta? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la science-fiction en France, ça a été un éditeur très très important, l'éditeur des deux grandes revues de la science-fiction des années 50-60, Fiction et Galaxie. Et à partir de 64-65, ils ont créé une collection très luxueuse, le Club de l'Identification, pour lequel ils ont fait appel à des jeunes dessinateurs. Et ces dessinateurs, 10 ans plus tard, ils fondaient Métal Hurlant. Et donc, il y a une espèce là de réservoir, de creuset qu'il est fascinant d'explorer.
Ça veut dire que le mot underground commençait à se libérer étape par étape, comme une éclosion, comme une naissance, comme une femme qui accouche. Et Opta était les premiers... D'abord, c'était mes travaux. Causer française correcte, si possible. Et c'était déjà la naissance de quelque chose. Et ensuite, je
vous
dis
le saviez
que...
ou pas
en oui, temps réel. Moi, j'étais fou. Attends, j'ai toujours été dingue. Je suis un cinglé. J'avais 16 ans. Je ne sais pas pourquoi. J'avais dit deux choses. La première, que la bande dessinée était un art absolu, parce que j'avais compris que la bande dessinée américaine, y compris Flash Gordon, y compris tous les personnages qu'il y a eu là-bas, Mandrake ou Flash Gordon, Prince Valiant, Foster, c'était de l'art absolu. Donc j'étais fou. J'avais cette conscience totale. Fin 70, je découvre l'image de synthèse. J'en ai parlé cet après-midi avec Science et Vie, le premier fil de fer avec la goutte d'eau modélisée. J'avais cette prescience. Ça voulait dire qu'il fallait faire un chemin. Il fallait absolument passer par des fourches codines. Donc il y avait ce qu'on a dit tout à l'heure, le silence total, les mecs habillés en noir comme des cagoulards, la nuit allons voir à la cinémathèque Fricks de Todd Browning où il manquait toujours la dernière bobine. C'était quand même insensé, on avait l'impression d'être des anarchistes. Ensuite il y a eu 68 et Opta a commencé à ouvrir le monde de la science-fiction à des dessinateurs, et après il y a eu un monsieur qui s'appelle René Goscinny en 69, et c'est Moebius qui me fait rentrer pilote, René Goscinny, que j'avais rencontré en 64, où j'avais amené mes planches de crétins délirants en grand format, où tout le monde me foutait dehors à coups de pompe dans le cul, et moi je rentrais par la fenêtre, on me foutait dehors, je rentrais par la cave, j'étais un enragé, j'avais les dents comme Dracula, et à l'époque, Goscinny m'avait dit, pour l'instant je ne suis pas encore prêt, mais un jour je ferai un journal moderne. Et ça a été 69, après 68, ça a été le journal pilote. Donc il y a eu toute une succession dans le monde de la science-fiction où le CLA Opta, comme tu viens de dire, était extrêmement important. Et il y a eu surtout, ne pas oublier, alors là j'y reviens, il y a eu Eric Losfeld. Alors Eric Losfeld, c'est qui? C'est un voyou qui ne payait personne, qui m'a niché comme c'est pas permis. J'allais crever la dalle pour un billet de 100 balles à l'époque, et qui édite quelque chose de surprenant et de merveilleux qui s'appelle Barbarella, ouais, de Jean-Claude Forest.
Je rappelle juste, la première bande dessinée adulte de l'histoire.
Absolument. Et Jean-Claude Forest était un crétin comme moi qui s'intéressait à la peinture, à la littérature, à l'écriture, au volume et à la bande dessinée. Et moi, à l'époque, je vois Barbarella et je me dis, putain, connard, trou du cul de merde, je parle de moi, tu ne t'es pas trompé, voilà l'avenir. Donc moi, je fais mon premier album chez Losfeld, à l'époque, Lonesland 66, et je fais mon Tintin au pays des soviets, c'est-à-dire une merde. C'est mon premier boulot, mais il est nul. Bon, très bien. Et simplement, je dis, c'est le futur. Mais à un moment donné, je stoppe en disant, il y a un problème qui ne va pas chez Losfeld, parce que c'est à double revers. Ça veut dire par là que c'était réservé à une élite. Et c'était des tirages de 5000 ou 6000 exemplaires.
Mais c'était en opposition avec le marché normal de la BD.
Voilà, tout à fait. C'était réservé aux branchés de l'époque. Et moi, je me dis, ce n'est pas possible. On doit faire de la qualité, de la folie, du fantastique et de l'extraordinaire à travers un support populaire. Et un jour, monsieur René Goscinny m'accueille, accompagné par cet enfoiré de Jean Giraud, à qui je demandais déjà depuis un an de me présenter, ce trou du cul que j'aime au passage, bien entendu. Et là, tout d'un coup, Pilote devient le moteur de la bande dessinée moderne. Dans un hebdomadaire qui tirait à 150 000, 200 000, parfois 250 000, et qui était lu en sondage, on le savait à l'époque, par 1 million de personnes. Ça veut dire qu'il y avait des gamins qui achetaient 4 ou 5 journaux dans leur classe, et ils étaient 40 à le lire. Et c'est la naissance de la bande dessinée moderne. Donc, le Sfel était balayé, c'était mon désir. Et ensuite, sort l'Écho des savanes, Bretéché, Gottlieb et Mandricard, et nous, Dionnet, Giraud et moi, on se dit comme des cons, pourquoi on ne montrait pas notre groupe de rock? Notre groupe de rock de BD. Donc on l'a fait, ça nous a coûté une fortune, bon, j'ai dit tout à l'heure, c'était l'horreur, et on y est arrivé. Donc ça a été une déchirure, mais d'abord il y a l'étape pilote, et ensuite il y a l'étape métal hurlant. Et ensuite il y a la bande dessinée actuelle, qui est, ce métier est fabuleux, parce qu'il y a une chose qui m'a toujours fasciné, j'en ai parlé hier, pardon de me répéter, mais on disait à une époque, après les Bilal, les Druyer et les Moebius, plus personne ne fera rien, mon tue. Chaque génération de bande dessinée maintenant, les Sfar, les Blin, les Blotch et compagnie.
Avec l'association, ils ont fait leur métal hurlant.
Ce métier est fabuleux de bande dessinée parce qu'il est d'une forme vivante et d'un esprit, les Riyad Satouf et autres. Nous avons une génération actuelle d'auteurs absolument prodigieuse. Et c'est un des rares métiers. Je parle métier parce que parler d'art, ça m'emmerde. Moi, je suis un artisan, quelque part. Et c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a pas ça dans la peinture. Dans la bande dessinée, c'est quelque chose de prodigieux. Il y a sans cesse, dans les générations aujourd'hui, des jeunes qui arrivent, qui ont 24 ou 25 ans, qui inventent des mondes. Ferry, je crois, Ferry, il s'appelle, qui est un mec prodigieux sur le plan du dessin. C'est étonnant. Voilà, c'est absolument étonnant. Je me remercie moi-même.
Bois ton whisky.
Oui, tiens, je vais boire le whisky.
Alors, on se donne encore quelques minutes.
Si vous avez des questions, c'est bien aussi.
Vous pouvez tout le temps prendre la parole. Métal, c'est, on ne peut pas du tout...
tout le monde a la trouille, en général.
Expédier,
ceux qui sont sur le plateau et ceux qui sont en bas, tu vois, c'est ça qui est génial. Tu vois.
On ne peut pas expédier Métal en une minute, on peut juste rappeler que
non,
ça a
Métal,
été...
Métal, donc on l'a dit tout à l'heure.
La plus belle revue du monde.
Ce qui était, oui, mais c'était aussi... le problème, c'est que Giraud était très... Jean était très absent dans le domaine. Moi, je venais de perdre Nicole, j'étais à moitié fou, et je voyais qu'on piquait dans la caisse. Et c'était un bordel absolu. Mais Dionnet, qui était un fou, qui ne savait pas dont compter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a inventé Métal. C'est lui qui a inventé Trembert et Jeannot. C'est lui qui a inventé Denis Cyr. C'est lui qui a inventé Franck Margerin. C'est lui qui... Et ce mec était un successeur moderne de René Goscinny. C'est-à-dire, quand un rédacteur en chef, comme m'a dit René Goscinny quand j'ai démarré, « Je ne comprends pas très bien ce que vous faites, mais je sens qu'il y a une qualité dans ce travail. » Donc, je l'ai dit, c'est mon rôle de rédacteur en chef. C'est-à-dire, comme un producteur de cinéma, il accepte des choses qu'il ne comprend pas, mais parce que c'est quelque part une valeur. Et le père Jean-Pierre Dionnet, qui est lui le véritable cerveau de Métal, c'était pas Manœuvre, c'était pas Giraud qui n'avait rien à foutre, et moi qui étais à moitié fou, celui qui a vraiment mené Métal jusqu'au bout, et oublions les affaires de fric, malheureusement, c'était Jean-Pierre Dionnet. Et c'est lui qui a inventé ça, et qui allait chercher des auteurs partout, y compris des jeunes auxquels personne ne croyait. Et ça, c'est comme un grand producteur de cinéma qui sait que même si ce n'est pas dans sa pensée personnelle, reconnaît en face de lui quelqu'un qu'il ne comprend pas, mais dont il sent le talent. Et donc, Goscinny, Dionnet, pour moi, sont les deux plus grands rédacteurs en chef du monde de la bande dessinée moderne.
Oui, je suis d'accord. Voilà. Très bien. Donc, cette révolution qui a eu lieu sous l'égide de Dionnet, mais avec toi et avec Moebius, aux commandes graphiques, on va dire, donc qui a transformé le monde de la science-fiction graphique dans le monde entier. Et on peut dire, alors, je veux dire, aussi bien dans le cinéma que dans la bande dessinée, ça a été quand même la première revue française qui est quelque chose à voir avec la science-fiction, qui a été traduite aux États-Unis,
bien sûr,
2 ans après sa création, presque bien tout sûr, de suite, donc. Voilà. Et on retrouve encore aujourd'hui dans la production des artistes du monde entier l'influence de Metal Hurlant. Il y a eu d'autres influences depuis, mais elle a été réellement déterminante et on peut dire qu'elle a fait entrer la SF, l'art graphique de la SF, dans sa forme contemporaine. On est encore sur ce phénomène-là. Pour conclure, parce que c'est, dans ta carrière, ça nous mène à 75-80. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Je voudrais que tu dises un mot. Alors, j'hésite entre deux sujets. Le premier, c'est le cinéma, mais d'une certaine manière, c'est assez facile. J'aimerais que tu dises pourquoi, à partir de 80, tu as un désir de renouer avec le classicisme ou éventuellement de le vitrioler, c'est-à-dire de faire Salambo, de faire Flaubert.
Ah, enfoiré. Bon.
Pourquoi tu fais ça?
Eh bien, c'est dans la réédition. Là, je vais faire de la pub, ça sort dans 10 jours. C'est dommage, on l'a raté ici. C'est Philippe Coquelin. J'avais fini l'album, c'était Gail, Après la nuit. J'aurais dû logiquement finir ma trajectoire de bande dessinée avec la mort de Nicole. C'était pour moi une clôture. Et puis je me suis dit...
L'album La Nuit.
Oui, et il faut survivre, il faut que tu continues. Et il m'a dit, attaque-toi, vous le verrez dans la réédition parce qu'on remet la préface. Et cet enfoiré de Philippe Coquelin, qui est mort en plus, ce con, qui a l'idée de mourir, enfin bon, ça arrive, me dit, mais tu devrais t'attaquer à Salambo. Et on avait un déjeuner tous les mois. Bon, je vais vite, c'est des anecdotes à la con. Et puis, au bout d'un an et demi, je me dis, bon, ok, je vais acheter. Allez, je suis allé, comment dire, vers Saint-Germain, un livre de poche, et j'ai acheté Salambo. Et j'ai compris qu'il avait raison. L'album Salambo, le livre, est un bouquin d'heroic fantasy. Flaubert a écrit quelque chose qui, évidemment, dans le pays de Proust, qui est le nôtre, on préfère Madame Bovary ou Bouvard et Pécuchet, et on trouve que Salambo, c'est un peu... Alors que c'est un roman absolument d'une modernité totale, et je me suis lancé là-dedans. Et je l'ai fait pendant 7 ans. J'ai mis 7 ans à faire ces 3 albums. Je faisais d'autres choses entre-temps, bien entendu. Et ce mariage entre la bande dessinée et l'art littéraire classique français veut dire que j'ai mis un doigt dans le cul à la culture, parce que grâce à cela, j'ai été invité au Louvre l'année dernière pour une conférence Salambo, Flaubert, Druyer, et ça fait 3 fois, et j'y vais en décembre pour un anniversaire de Flaubert où j'ai fait le mariage de la bande dessinée et de la grande justifiée littérature. Parce qu'il y avait toujours ce côté, la bande dessinée est-elle une littérature? Et moi je disais, vous allez au musée du Louvre voir une peinture, est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que c'est écrit? Et j'ai fait ce message, et ce qui était absolument magnifique, c'est que le nombre de gamins que j'ai rencontrés dans des festivals comme aujourd'hui, qui m'ont dit, j'ai lu votre bande dessinée, et après, j'ai acheté le roman de Flaubert, et j'y ai pris autant de plaisir. Et là, j'ai fait ce putain de combat par rapport à la bande dessinée qui était considérée comme un art de merde, faut bien le dire. Et on s'est battu pour dire que nous existions, et j'ai fait ce mariage. Et alors, je vous annonce que, puisque je suis assez con pour le faire, ma prochaine BD, je termine Delirious 2, et l'année prochaine, je m'attaque à Dante, l'enfer de Dante, par le Druyetti. Va bene, va crédit, avec une préface de Berlusconi. Non, mais. Non. À poil. Et donc, je ne ferai que l'enfer, parce que le paradis me fait chier, le purgatoire, c'est long. Et je vais le faire à ma manière, parce que Gustave Doré l'a fait d'une manière absolument somptueuse au 19e siècle. Et je ferai la même chose que j'ai fait pour Salambo, c'est que j'ai besoin d'une base, d'un témoin. Et ce témoin, c'est Sloan. Pourquoi ai-je mis Sloan dans Salambo à la place de Matteau? Parce que j'avais besoin de mon personnage
totémique. Faut qu'il soit dedans, bien sûr.
Et donc, il fera soit Virgile, soit Dante. Et bon, c'est un travail ésotérique important, presque maçonnique, parce qu'il y a là des clés absolument somptueuses. Et je suis assez dingue pour m'attaquer à ça. Donc voilà, quoi. Et puis merde, puis après je ferai Ziggy et Puce.
Je ne sais pas s'il y a une meilleure conclusion possible à cette espèce de rétrospective. Deux choses. On est dans un festival décoré cette année par Philippe Druyer, et ce festival, son objet, la science-fiction, cet imaginaire, les livres qui sont là-bas, tout ça sort d'une époque à laquelle il a contribué pour au moins un quart. Deux, l'enfer par Druyer, on aimerait beaucoup voir ça, et ce sera notre conclusion provisoire. Philippe Druyer.